Merci beaucoup Benoît Dumont. Prochain rendez-vous avec l'info dans une heure.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi, entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Destination élections ce soir, quels sont les enjeux pour la Belgique lors des élections européennes? C'est la question de Place Publique ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Sont avec nous Place Publique ce soir Fabrice Van Dorp, tête de liste Défi à l'Europe. Bonsoir.
Bonsoir.
Léa Charlet, troisième sur la liste Écolo à l'Europe. Bonsoir.
Bonsoir.
Et David Mouango, sixième sur la liste Les Engagés à l'Europe. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Le PTB, le MR et le PS ne sont pas là ce soir. Ils ne sont pas disponibles pour débattre de l'Europe. Je le regrette autant que vous, madame, messieurs. Soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Le 9 juin, nous votons aussi pour les élections européennes pour élire nos députés européens. Une question préoccupe particulièrement les Européens et les Belges. Le pouvoir d'achat. De quelle manière le projet européen peut-il augmenter le pouvoir d'achat des Européens et particulièrement des Belges? Place d'abord aux femmes. Léa Charlet, troisième sur la liste Écolo à l'Europe. De quelle manière le projet européen peut-il soutenir le pouvoir d'achat?
Merci pour la question. Fin avril, on a voté au Parlement européen un pacte budgétaire. Celui-ci qui rétablit purement et simplement l'austérité européenne. Et c'est une catastrophe. Celui-ci a été voté par la droite et par une grosse partie du groupe socialiste, malheureusement. Donc la droite, le PPE, Renew, des groupes de droite. En fait, et pour se conformer aux règles, pour vous expliquer, la Belgique devra économiser environ 28 milliards d'euros avant 2028. 28 milliards d'euros, c'est 3 fois le budget prévu pour les hôpitaux. C'est 7 fois la dotation annuelle de la STIB, donc c'est un montant énorme. Et nous, en fait, on pense qu'on doit investir maintenant dans la transition écologique et la justice sociale pour protéger les plus précaires et qu'on n'a pas le choix et que les épaules les plus larges doivent pouvoir porter les charges les plus lourdes. Et donc nous, au niveau européen, on plaide pour l'adoption d'une directive cadre, en fait, pour un revenu minimum européen qui serait basé sur le seuil de pauvreté de chaque pays et qui garantirait à tous les citoyens et toutes les citoyennes européennes un revenu de subsistance qui leur permettrait évidemment de payer leur loyer, de se nourrir sainement, d'accéder aux soins de santé et de payer leurs factures. Et notamment, nous, une des mesures qu'on propose avec Écolo au niveau belge, c'est d'augmenter les bas et les moyens salaires entre 200 à 300 euros net. Mais voilà, donc on a besoin d'arrêter et de cesser ces mesures d'austérité qui sont prises au niveau européen et nous, c'est ce qu'on pousse avec Écolo au niveau européen.
La proposition des Écolo que vous venez d'évoquer va même au-delà du pouvoir d'achat, puisque, si j'entends bien, elle signifie la fin de la pauvreté.
C'est un peu l'objectif. Nous, ce qu'on nous en souhaite, évidemment, c'est qu'on puisse protéger les plus précaires. Ce n'est pas normal que dans un pays comme la Belgique, qui est un pays riche, on ait encore des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc voilà, on a pas mal de mesures aussi dans notre programme pour protéger les emplois, notamment pour garder des emplois de qualité, pour des emplois qui soient mieux payés et qui de permettre de protéger tous les citoyens et les citoyennes de Belgique. D'Europe.
David Mouango, vous êtes sixième sur la liste Les Engagés à l'Europe. Quelle est la proposition des Engagés à l'Europe pour soutenir le pouvoir d'achat des Belges et des Européens?
Bonsoir tout le monde. Le pouvoir d'achat, c'est une question essentielle et je pense que c'est l'une des priorités que les Engagés ont fait, notamment sur le programme, qu'il soit national, régional ou européen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir d'achat est lié à deux grands facteurs qui sont l'emploi et la fiscalité. Et ce que nous, on propose au niveau européen, c'est d'œuvrer à la transformation du système fiscal au niveau européen. Parce que c'est une compétence qui est encore actuellement aux mains des États membres. Donc c'est une compétence fédérale. Nous voulons faire une compétence européenne pour la simple et bonne raison que l'architecture, en fait, dans laquelle s'organisent nos différents pays est de plus en plus commune. et que la manière dont on échange les biens et les services et dont on consomme, c'est de plus en plus entre les différents pays. Et donc, ce qu'on veut faire simplement, c'est bien évidemment adapter l'impôt pour baisser les réductions d'impôts pour les particuliers, mais aussi adapter la taxation sur les entreprises qui est encore inégale entre les différents pays de l'Union européenne. Là où nous, on va taxer à un certain pourcent, il y a d'autres pays de l'Union européenne qui vont avoir une taxation beaucoup moins forte, et donc ça crée des inégalités, et donc implicitement, dans la chaîne de consommation, ça crée, une baisse du pouvoir d'achat des Belges, pour citer les Belges, ou d'autres pays par rapport à d'autres pays. Et donc nous, on veut d'abord faire une compétence européenne de cela pour pouvoir se mettre au même diapason avec tout le monde afin de réduire ces inégalités entre les différents pays. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, ce qu'on veut, c'est adapter aussi la fiscalité, parce que on parlera de l'emploi sûrement tout à l'heure,
oui,
qui sera le deuxième facteur du pouvoir d'achat, mais on veut aussi adapter cette fiscalité aux normes environnementales. Pourquoi ? Parce que on va réduire en fait le pouvoir d'achat de plusieurs personnes sans prendre en compte en fait le facteur environnemental qui devient en fait un combat de tous les partis et de tous les instants. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est récompenser ceux qui font un effort dans le sens de l'environnement, mais aussi au contraire donner une forme de sanction ou d'alerte à ceux qui continuent de consommer certains produits qui ne vont pas dans le sens en fait de la transition climatique, d'une bonne transition climatique plutôt.
Fabrice Van Dorp, vous êtes tête de liste Défi à l'Europe. Quelle est la proposition de Défi à l'Europe pour soutenir notre pouvoir d'achat ?
Alors, excusez-moi. Je pense que mes collègues viennent de cibler tout à fait ce qu'on a dit. Je pense qu'on va revenir un peu plus sur une proposition humaine. On est beaucoup dans le slogan pour l'instant, beaucoup « on va faire », mais il faudrait peut-être le faire. Nous, on a déjà parlé d'un bouclier. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas l'Europe. Madame rigole à côté de moi. Mais c'est facile de toujours envoyer des chiffres, des slogans. Et je vois, qu'allez-vous faire réellement ? Parce que jusque-là, je pense que vous étiez aussi au gouvernement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? C'est toujours la question que je me pose. Et chez Défi, je pense qu'on a plein de solutions. Mais parler de solutions, on ne met pas en avant la personne. Hein, on parle de solutions et je vois que tout le monde s'évade, tout le monde va trouver la solution. Et pourquoi on ne l'a pas trouvé avant ? C'était la question que je voulais vous poser.
Justement, je laisse la parole à Léa Charlet, troisième sur la liste écolo à l'Europe, qui est à côté de vous. Et j'ai vu que vous la visiez, Léa Charlet.
Oui, parce qu'il y a des belles propositions, c'est un peu pour ça, elle ou...
Alors, si je peux juste me permettre donc, oui, de rebondir. Le groupe des Verts au Parlement européen est le quatrième groupe actuellement. Il n'est pas un groupe en majorité. Les groupes qui sont en majorité donc, et qui en tout cas influent énormément sur les politiques européennes sont plutôt des groupes de droite. Malheureusement, c'est le groupe du PPE dont fait partie actuellement nos collègues désengagés. Les groupes des socialistes et vous le savez sûrement puisque vous êtes candidat à l'Europe, que ça ne fonctionne pas de la même manière au niveau européen qu'au niveau du gouvernement belge. Nous poussons, et je pense que nous avons un bilan qui est totalement à défendre au niveau pour les écologistes verts, parce que le groupe des Verts, il se trouve que c'est le groupe qui vote le plus ensemble du Parlement européen. C'est-à-dire que quand vous votez vert à n'importe quel endroit du continent, eh bien vous votez pour la même chose. Nous avons un manifeste que tout le monde a signé, nous avons des propositions qui sont extrêmement claires, qui sont précises, et en fait, nous sommes reconnus au sein du Parlement européen, le groupe des Verts, pour être extrêmement technique, pour faire avancer les choses et pour ne pas tout bloquer. Donc oui, nous avons fait bouger certaines choses. Notamment, nous avons poussé pour vous en parliez, la question des normes environnementales et de protéger le pouvoir d'achat. Voilà, nous, une des choses qui est très importante pour nous, c'est de protéger aussi les entrepreneurs et les gens qui créent sur notre territoire et qui ne soient pas en concurrence déloyale avec l'extérieur. Et nous avons notamment beaucoup poussé pour une directive qui était demandée depuis très très longtemps par différentes associations, qui est la directive qu'on appelle la Due Diligence Directive, et qui en gros permet que l'on puisse en fait obliger les grandes entreprises à vérifier quels sont les droits humains en fait des entreprises auxquelles elles délocalisent, enfin elles font travailler, je ne trouve plus mes petits termes, mais voilà. Donc cette directive du diligence, elle a été fondamentale, elle a été extrêmement poussée et c'est une énorme avancée. Elle n'est pas satisfaisante sur tout, mais voilà. Donc Moi, je pense que nous avons énormément de grandes victoires au niveau écologiste, donc, et que nous le faisons, mais que ça reste un petit parti. Nous restons un petit groupe, et donc, évidemment, si vous nous mettez au pouvoir, ce que je vous remercie, eh bien, je pense que nous pouvons faire beaucoup plus et avancer la transition écologique et le pouvoir d'achat des Belges également.
Place publique continue dans un instant, juste après une courte pause musicale. À tout de suite. Destination élections ce soir dans Place Publique. Quels sont les enjeux pour la Belgique lors des élections européennes du 9 juin? Juste avant la pause musicale, nous parlions de votre pouvoir d'achat. David Mwongo, sixième sur la liste Les Engagés à l'Europe. Vous souhaitiez réagir à ce qui se disait juste avant la pause?
Oui, j'aimerais juste réagir pour clarifier peut-être deux, trois choses qui ont été énoncées ici. Simplement que les engagés ne sont pas dans le gouvernement en Belgique au niveau fédéral. On est dans l'opposition. Ça d'abord, je voulais le préciser parce que ça a été mentionné. Écolo l'est, mais nous ne le sommes pas. Ça, je voulais le préciser. Et puis, comme ma collègue d'Écolo l'a précisé, au niveau européen, ça se passe différemment. Donc, on ne fonctionne pas de la même manière qu'au niveau fédéral. Ça, je voulais aussi le préciser. Et qu'on n'est pas ici, en fait, pour faire des slogans ou donner des chiffres. Les chiffres que je donne et les éléments que je donne, c'est une réforme fiscale. La réforme fiscalité travail, en fait, que proposent les engagés, qui est la seule, en fait, des grands partis francophones qui a été saluée par les experts. Je tiens simplement aussi à le souligner. Deuxièmement, je vois que vous contestez, mais pourtant, c'est la vérité. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que nous, l'humain est au centre de notre politique. La santé est notre priorité.
Je tiens à dire à l'auditeur que ce n'est pas moi qui conteste que ce que vous dites, évidemment. Moi, je ne prends pas position, je pose des questions. Vous parliez de Léa Charlet, oui, troisième sur la liste écolo.
Ah oui, j'oublie qu'on ne nous voit pas forcément, c'est vrai.
Mais nos auditeurs peuvent aussi nous suivre sur arabelle.fm et sur Dailymotion, évidemment, en direct vidéo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en vidéo.
Exactement. Et donc, ce que je voulais dire, pour conclure ma réponse, c'est que... La santé est la priorité des engagés, le bien-être. On va être très fort sur l'économie, mais dans le but du bien-être de la personne. On va être très fort dans le social, dans le but du bien-être de la personne. On va être très fort et cohérent dans tout ce qui est climatique et énergétique, dans le but du bien-être de la personne. Et nous, ce qu'on veut au niveau européen, ce n'est pas continuer dans le libre-échange, mais passer du libre-échange au juste-échange. Parce que oui, il est insoutenable que certaines politiques économiques ne favorisent pas le bien-être humain, que ce soit en Europe ou à travers le monde. Je pense qu'on a une responsabilité humaine de produire avec dignité et d'adapter la fiscalité aussi avec dignité. Je voulais juste le préciser.
Léa Charlet, Colotte, dernière réaction là-dessus, 30 secondes avant de passer à la prochaine thématique.
Non, je rejoins juste mon collègue sur le fait qu'on a besoin d'une Europe fiscale et notamment je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut pouvoir gérer, avoir le même niveau de taxation à toutes les entreprises et de les niveler vers le haut, car ce n'est pas normal que nous ayons des paradis fiscaux au niveau européen.
Dans une poignée de secondes, nous parlons de l'emploi.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Quels sont les enjeux pour la Belgique lors des élections européennes du 9 juin? Je vous rappelle que vous pouvez réagir par SMS au 0488-106-800. Un autre thème préoccupe particulièrement les Belges, il s'agit de l'emploi. Fabrice Van Dorp, tête de liste Défi à l'Europe. Quelle est la proposition de Défi pour que tous les Européens, et donc particulièrement les Belges, puissent trouver un emploi?
Écoutez, on a vécu beaucoup de crises pour l'instant. La crise sanitaire a été révélatrice. On voit que toutes nos industries sont parties à l'étranger. Il est temps de remettre une industrie sérieuse en Wallonie et à Bruxelles. Si vous voulez une petite plaque pour mettre dans votre voiture électronique, il faut la commander en Chine. Si la Chine dit qu'il n'y a plus de plaque, il n'y a plus de voiture. Donc je pense qu'il est temps de refaire une véritable stratégie et de remettre au centre des préoccupations des industries. On parlait de l'armement, je sais que ça va choquer certains, mais c'est vrai qu'il faut une autonomie à tous les niveaux. On l'a vu aussi avec les énergies. Si nous n'avons pas d'entreprise sérieuse ici en Wallonie et à Bruxelles, nous sommes voués à l'échec. Troisième puissance mondiale, c'est l'Europe. Donc il est temps de vraiment avoir des industries fortes et ça nous permettra de créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est de la richesse. La richesse permettra de vivre correctement. Je pense que c'est indispensable.
C'est donc pas trop tard pour que les industries reviennent en Belgique?
Mais il n'est jamais trop tard. Il faut légiférer. La Pologne, 9% d'impôts sur une société, 12% en Irlande, 25% et voire plus en Belgique. Il est temps de légiférer correctement en Europe. Et surtout, c'est le sursaut en 2024. Si on se laisse aller encore 5 ans, c'est terminé. Donc il faut vraiment maintenant prendre les choses en main. C'est pour ça que Défi se présente devant vous en disant « Prenez-nous avec vous et là, on va faire quelque chose ».
David Mouango, 6e sur la liste Les Engagés à l'Europe. Quelle est la proposition des engagés pour permettre à tous les Européens d'avoir un emploi?
L'idée, je pense que là c'est bon. L'idée, elle est globale. Je pense que le problème de l'emploi n'est pas une thématique ou un sujet à prendre, avec différents axes. Je pense qu'il se combat tant au niveau fédéral, au niveau régional qu'au niveau européen. Ce que les engagés proposent très concrètement, c'est de pouvoir d'abord créer un différentiel entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. La première chose, quand on commence, c'est en ayant un bonus bosseur, ce qu'on a appelé le bonus bosseur, qui serait de l'ordre de 450 € net par mois par travailleur, bien évidemment selon différents critères. L'autre chose, c'est qu'on est conscient qu'il y a des personnes qui sont en chômage technique, il y a des personnes qui sont dans l'incapacité aussi de travailler. Ce que les engagés proposent, c'est un droit à la réformation, à la reformation durant une carrière au moins. Parce que le problème qu'on rencontre, et moi j'en ai rencontré quand j'étais au Luxembourg, à Libramont, il y a 2 mois de cela, je parle avec une dame qui me dit, après le débat, c'était un débat face à candidat européen, et la dame me dit, mais écoutez, elle est dans une université, elle dit, moi je fais des études de comptabilité ici parce que je veux poursuivre ma carrière en tant que comptable. Elle était institutrice. Et elle me dit, mais mon chômage est dégressif. Et j'ai une petite fille. Et en fait, on va arriver en septembre. Si les choses ne changent pas, ben en fait, ce que les allocations de chômage que je vais percevoir ne me permettront plus de vivre. Et en fait, ça veut dire que je vais devoir retourner en tant qu'incite. Et c'est là où je pense que la mesure des engagés fait sens, de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme cette dame-là? Elle a un droit à la reformation pour pouvoir continuer de travailler. Parce que moi, je pense sincèrement que tout le monde est heureux quand il fait un travail qu'il aime et qu'il est rémunéré correctement par rapport au travail qu'il fait. La réalité aujourd'hui, c'est que dans certaines zones du pays, tu peux ne pas travailler, vivre des aides et percevoir des revenus plus ou moins ou équivalents à quelqu'un qui travaillerait avec un salaire minimum. Et ça, c'est grave. Et il y a des partis, dont les partis de gauche notamment, qui soutiennent l'assistanat. Et nous, on est contre cet assistanat-là. Totalement. Et donc, on veut récompenser ceux qui bossent, tant au niveau fédéral qu'au niveau européen. Et encore une fois, ça passera par de la fiscalité, ça passera par le fait de légiférer ensemble. Mais ce n'est pas impossible. Et on ne peut pas encourager une société dans laquelle on estime que ce n'est plus valorisant d'aller travailler. Et pour cela, il faut un bonus bosseur, parce que l'argent, faut pas être démagogue, c'est important, mais il faut aussi un droit à la reformation durant la carrière.
Avant de donner la parole à Léa Charlet, Fabrice Van Dorp, tête de liste Défi à l'Europe, souhaite réagir à ce que vous venez de dire.
Oui, non, je ne vais pas réagir, mais j'ai oublié aussi la TVA. Il est temps d'harmoniser cette TVA sur l'ensemble de l'Europe, parce qu'on voit des TVA différentes partout et ça pose un véritable problème. Alors, on parlait de formation, de reformation, de formation, il est indispensable. On ne fait plus une carrière maintenant de 40 ans dans le même travail. Donc c'est important. Il faut penser aussi aux parents, les parents donc, qui sont seuls avec un enfant monoparental. Donc il faut aussi leur laisser un accès et un travail rémunérateur, c'est très important.
Oui. Je crois que vous allez bien vous entendre tous les deux, parce que chez les engagés, on soutient les mamans solo et les papas solo.
Tout à fait, c'est important.
Chez des filles aussi, apparemment.
Oui, tout à fait, c'est important. Chez nous, c'est primordial, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans cette situation, on n'en parle pas assez, et ces gens sont en souffrance. Hein. Ils sont souvent seuls, esselés, sans famille, donc ils perdent beaucoup de droits, notamment même les crèches. Hein. Je pense qu'il va falloir sérieusement se pencher sur le système des crèches, qui est important dans nos villes ou nos villages. Et voilà, ces mamans qui doivent aller travailler avec un enfant, qui n'ont personne pour garder cet enfant, ça pose un véritable problème.
Léa Charlet, je rappelle que vous êtes 3e sur la liste écolo à l'Europe. Quelle est la proposition d'écolo pour permettre à tous les Européens, et donc ce qui nous intéresse à tous les Belges, d'avoir accès à un emploi?
Je crois qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais je crois que nous, quelque chose qui nous importe énormément, c'est qu'on est face à une urgence qui est environnementale et sociale. Qu'on a besoin de changer de modèle. Qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait auparavant. Et que nous, les choses sur lesquelles on insiste et qu'on veut soutenir ceux et celles qui font vivre notre économie au quotidien. ceux qui entreprennent, ceux qui innovent et qui portent en fait une transition, une transition sur le terrain. Nous, on est vraiment pour une économie qui est locale, une économie qui est prospère, qui est résiliente, en fait. Ça va être de plus en plus important dans les années qui vont arriver, qui est centrée sur ce qui importe vraiment. En fait, la satisfaction des besoins de chacun dans le respect des limites planétaires. Donc nous, on pousse pour une transition. En fait, et la transition qui soit juste. Et dans toute cette transition, ça doit forcément garantir de la justice sociale pour renforcer nos solidarités collectives et lutter contre les inégalités. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste en fait sur la transition? Parce qu'en fait, la transition écologique, elle va ramener énormément d'emplois. Une transition écologique, c'est jusqu'à 3 millions d'emplois au niveau européen. Et en Belgique, c'est jusqu'à 100 000 emplois dans le seul secteur de l'économie circulaire. Je ne vous parle même pas des énergies renouvelables, je vous parle juste du secteur de l'économie circulaire. Et donc, si on parle de ce secteur-là, c'est plus d'emplois, moins de déchets et une planète préservée. Voilà, donc nous, en fait, on est pour ça. On est persuadés qu'on peut réussir à amener de l'emploi en Belgique, notamment en continuant sur le secteur de la transition. Et j'aimerais juste faire une toute petite réaction sur la question de l'assistanat. Je crois qu'il faut réaliser qu'il n'y a qu'un cas ou deux dans lequel des personnes vivraient mieux ils étaient avec des aides. Et c'est le cas où c'est, par exemple, une femme seule en mi-temps avec des enfants, où là, effectivement, des aides sont plus convenables pour elle que d'aller travailler en mi-temps. Le reste des gens, je ne suis pas certaine que... je ne suis vraiment pas certaine que la plupart des gens profitent de ce système. C'est un système qui est extrêmement inégalitaire. La Belgique est dans un système qui, malheureusement, qui est trop inégalitaire. Et nous, on est pour continuer de soutenir les personnes qui sont dans la précarité et pour faire sortir les gens de la précarité. Encore une fois, soutenir les indépendants, soutenir tout ça. Mais je pense qu'il faut faire attention de pousser cette espèce d'argumentaire qu'il y a de l'assistanat en Belgique à gogo. Voilà, moi je pense que les premières choses sur lesquelles on pourrait taper, c'est l'évasion fiscale, qui est un problème européen, qui nous rapporterait beaucoup plus d'argent que de lutter contre cet assistanat, soi-disant, qui ne coûte pas autant que l'évasion fiscale nous fait perdre de l'argent au niveau européen.
David Mungo, 6e sur la liste Les Engagés à l'Europe.
Oui, juste pour rebondir, et pour vraiment être clair là-dessus, et peut-être même un peu pédagogue, si vous me le permettez. Les engagés ne prônent pas, la fin des aides sociales, non. Il faut du social, il y a des gens qui en ont besoin. L'histoire personnelle que je porte me prouve bien que c'est nécessaire. Ce que je dis et ce que nous avançons, c'est qu'il faut néanmoins remettre la société au travail, encourager les gens à travailler. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation. On est dans une société, nous sommes en 2024, sincèrement, il y a plein de personnes, je pense qu'on le disait ici, qu'on ne fait plus une carrière de 40 ans dans le même job, premièrement, et puis deuxièmement, face à l'intelligence artificielle, face au numérique, il faut sensibiliser les gens, permettre à la population de se former dans ces nouvelles technologies pour pouvoir trouver un travail qui va avec l'air du temps. À l'heure actuelle, il y a certaines entreprises qui ne vont pas t'engager si tu ne sais pas maîtriser certains logiciels. Mais tu vas apprendre quand ces logiciels, quand tu n'as pas la possibilité de te former. Et donc, il y a cet équilibre-là qu'on essaye de rechercher. L'autre chose aussi, parce qu'on est en train de parler de l'emploi, c'est que nous voulons créer et favoriser un équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce qu'encore une fois, le centre du projet que nous portons et que je défends aujourd'hui, c'est le bien-être. Et donc, nous ne sommes pas là à dire « travaillons à tout prix », etc., etc. Non, nous sommes là pour dire « travaillons de manière plus juste, mettons tout le monde au travail de manière harmonieuse pour créer réellement un sentiment de bien-être ». Donc je voulais vraiment clarifier ça. Et puis enfin, c'est vrai qu'il y a de l'argent à aller chercher ailleurs. Les niches fiscales, c'est vrai, tout à fait d'accord. Et on le dit dans notre réforme fiscale, il faut supprimer les niches fiscales. Mais la réalité aussi, c'est que la plupart des personnes qui bossent veulent une réduction d'impôts. Et tant qu'on n'a pas plus de personnes qui participent à la collectivité, ça va être compliqué de réduire les impôts. Ça, ce n'est pas. Je sais que ce n'est pas un discours qui est très, si vous me permettez l'expression, sexy à entendre, mais la réalité est que nous sommes dans un système participatif.
Fabrice Vandoorne, oui. Défi, réaction.
Oui, bien sûr.
Rapide.
Chez Défi, on prône aussi l'entrepreneuriat. Chez nous, on n'a pas cette culture en Flandre. Ils l'ont très fort. Ils commencent déjà dès les études à former des gens. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va engager des gens. C'est quelqu'un qui va remettre du travail dans sa ville, dans son village, dans la communauté. Et chez nous, on a vraiment envie de dire, osez, rêvez un projet, osez et entreprenez. Je sais que ce n'est pas facile. Vous voyez, en Flandre, ils peuvent avoir une ou deux ou trois échecs. C'est comme aux États-Unis, on peut tomber plusieurs fois. Et chez nous, on a un peu peur de l'échec. On peut avoir un échec en étant entrepreneur la première ou deuxième année. Donc, on veut vraiment pousser les gens à entreprendre. Entreprendre, c'est quand même engager plusieurs personnes, c'est tirer des gens avec soi, c'est remettre des gens au travail. C'est très important chez Défi.
Mais donc, pour donner envie d'entreprendre, il faut que malgré tout, des parachutes
bien sûr,
existent
bien sûr,
en cas d'échec.
Bien sûr, bien sûr. Il faut justement pouvoir permettre à des gens d'avoir cet échec. Il faut donner l'envie d'avoir envie. Parce que pour l'instant, on dit, oulala, si tu commences quelque chose, c'est pas sûr que ça va marcher. Déjà, je vois autour de moi, les gens se plaignent tout le temps. À la place de se plaindre, il faut peut-être un petit peu mettre un coup de pied au derrière et dire en avant, il faut aller vers l'avant. Mais on a peur de l'échec, parce que l'échec en Wallonie ou à Bruxelles, c'est quelque chose de péjoratif, alors que l'échec, voilà, on a mal débuté, ça s'est pas bien passé, plein de choses peuvent arriver. Et je vois aussi, on parlait très peu des gens qui sont en incapacité de travail, parce que le travail était trop dur pour eux, des gens qui ont été abandonnés un peu sur le terrain, des burn-out. Donc il y a quand même 500 000 personnes qui sont dans ce cas, des longues durées.
C'est pas des gens qui ont choisi d'eux-mêmes de ne pas travailler.
C'est pour ça qu'il faut pas montrer du doigt. L'échec, justement, peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge et dans n'importe quelle profession.
Tous les trois, vous avez devancé le prochain défi de ces élections européennes. On en parle dans un instant. C'est le défi économique. Faut-il protéger nos industries? La question est d'ores et déjà posée. Vous me répondez par SMS au 0488 106 800. À tout de suite.
20h, place publique sur Arabelle.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Destination élections ce soir avec un regard vers les élections européennes du 9 juin. L'Europe est confrontée à un autre défi, le défi économique. Faut-il protéger nos industries? Et si oui, comment? La question est posée. Léa Charlet, vous êtes troisième sur la liste écolo à l'Europe.
Je pense qu'encore une fois, nous, on va retaper sur le clou écologiste. Je pense qu'effectivement, il faut remettre des industries au niveau européen en général. Nous, ce qu'on pousse pour une réindustrialisation verte, créatrice d'emplois de qualité, parce que je vous rejoins sur le fait qu'il faut des emplois de qualité, qui contribuent à l'autonomie stratégique européenne. Encore une fois, on ne veut pas avoir à dépendre de la Chine, de la Russie, On veut également qu'il y ait une industrie qui soit juste. C'est ce qu'on disait par rapport aux accords de libre-échange. On ne peut pas continuer d'avoir des accords où il y a une mise en concurrence totale et tellement forte avec les industriels et les industries européennes à ce point-là. On voudrait aussi également des investissements en fait, qui soient massifs et publics, des investissements publics dans la recherche pour la transition et dans la formation. Et qu'on puisse aussi continuer d'avancer sur les partenariats publics-privés. Parce que ça nous semblait aussi essentiel et dans certains secteurs verts stratégiques. Voilà. Et nous, en fait, aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on soit en dialogue avec les syndicats, avec les acteurs en fait, économiques, les travailleurs, les représentants, en fait, pour préparer ces feuilles de route et pour, en gros, voir comment est-ce qu'on peut conserver les industries sur notre territoire, mais également réindustrialiser de manière verte et penser encore une fois au futur. Parce que voilà, on a beaucoup discuté de ces questions de changement, il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les métiers, mais encore une fois, la transition écologique va avoir un énorme impact sur nos industries et on a besoin de le visualiser à l'avance et de l'anticiper. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est qu'on investisse maintenant plutôt que ça soit trop tard. Parce que le coût de l'inaction climatique sera beaucoup trop fort sur la planète, mais également sur les gens.
David Mouango, sixième sur la liste, les engagés à l'Europe.
Oui, clairement, il faut protéger les industries européennes. Très clairement, tu ne peux pas t'asseoir à la même table que quelqu'un avec qui tu négocies, si tu dépends de cette personne pour te nourrir, pour te chauffer, ou pour... on parle de transition climatique et énergétique ici. Voilà, on sait tout ce qui est en train de se passer dans l'industrie de l'automobile, par exemple. Actuellement, la plupart des batteries proviennent de Chine. Comment est-ce qu'on peut lutter correctement avec la Chine si on dépend de la Chine pour une partie de notre transition énergétique ? C'est problématique. Donc il faut protéger. Il faut protéger. Il faut aussi réindustrialiser, pardon, en Europe. On parle souvent, c'est le sujet qui est un peu à la mode ces derniers temps, l'Europe de la défense. On a un champion ici en Belgique, du côté de Liège, en termes de matière de défense. Mais moi, j'aimerais dire, ayons des champions dans le numérique, ayons des champions dans d'autres secteurs stratégiques. Il est important qu'on puisse retrouver une Europe stratège et autonome. On ne sait pas ce qui va se passer dans le courant du mois d'octobre du côté des États-Unis. On ne peut plus se dire qu'on dépend simplement des GAFAM ou de la Chine pour certaines industries, parce que du coup, on affaiblit l'Europe. Et si on affaiblit l'Europe, à partir d'un moment, autour de la table, on ne sera plus en mesure de négocier pour nous-mêmes. Autre chose que je voulais dire, c'était par rapport aux agriculteurs, parce qu'on parle d'industrie. Nous militons notamment pour les clauses miroirs. Ce n'est pas normal qu'on interdise, chez nous, chez nos agriculteurs, certains produits comme l'atrazine, par exemple, parce que c'est néfaste pour la santé, donc c'est très bien pour nous autres, mais qu'entre-temps, on va accepter d'importer des produits qui sont fabriqués avec cette atrazine d'autres pays qui sont hors de l'Union européenne. Je veux dire, si on veut prendre ce lead-là, énergétique, climatique, environnemental, faisons-le jusqu'au bout, imposons nos standards afin de pouvoir réellement, comment dirais-je, être ces champions-là de l'industrie.
Voilà qui est dit. Léa Charlet, que l'on vous répondra dans quelques instants. Mais avant cela, Fabrice Van Dorp, tête de liste Défis à l'Europe. Vous êtes d'accord, j'imagine, qu'il faut protéger nos industries.
Bien sûr. Il faut soutenir surtout la liberté d'entreprendre. Et puis, alors, rendre le contrat social plus juste. On se rend compte, il faut concrétiser l'action également. Très simple pour le climat, en proposant une écologie pragmatique et surtout garder ce social, parce qu'on ne peut pas demander aux plus pauvres, je prends le cas d'une voiture électrique à un certain moment, d'acheter, j'ai le cas pour l'instant, j'ai une voiture de 11 ans, je ne peux plus rentrer dans Bruxelles avec cette voiture. Alors comment voulez-vous expliquer à deux personnes qui sont peut-être toutes les deux retraitées d'acheter une nouvelle voiture parce qu'ils doivent se déplacer, ils habitent Bruxelles? Vous allez me dire, pourquoi ils devraient se déplacer? Parce que pour un tas de raisons, ils ont besoin d'aller voir leurs enfants à Arlon. Mais pour revenir à Bruxelles, si la voiture est trop vieille, ils ne peuvent plus bouger. Donc ce n'est pas possible. Ils ne peuvent peut-être pas prendre le train, ils ont peut-être un handicap. Donc sur le dos du social, on ne peut pas non plus créer, on ne peut pas non plus appuyer le bâton dans le dos, pardon, sur une écologie trop difficile. Il faut qu'on soit pragmatique à ce niveau-là.
Léa Charlet, troisième sur la liste écolo à l'Europe. Vous souhaitiez réagir aux propos de David Mwongo.
Oui, moi j'ai une toute petite réaction parce que, en fait, encore une fois, je trouve que c'est des très beaux discours, pour le coup. Cependant, les engagés sont actuellement dans un groupe qui s'appelle le Parti Populaire Européen, qui est un énorme groupe. Mmh. Et vous avez voté, en fait, contre tout ce que vous êtes en train d'affirmer. Donc moi,
pas tout, mais oui.
Beaucoup de choses, les réformes de la PAC, voilà, il y a quand même eu des propositions. Donc moi, je me pose comme question, là, littéralement, c'est des discours qui n'ont pas été suivis, en fait, d'actes. Vous n'avez pas protégé les agriculteurs lorsque vous l'avez, là, contrairement à ce que vous dites là maintenant.
Ou bien vous avez envie de rejoindre Écolo, David Mwongo?
Oui, c'est ça, peut-être.
Bon, peut-être pas rejoindre Écolo, mais en tout cas, l'écologie et la transition écologique est une priorité pour nous. Ça, c'est sûr, mais je vais
Que vous soutiendrez avec plus de fermeté que vos anciens collègues.
Qu'on soutiendra avec plus de fermeté, mais surtout avec plus de pragmatisme. Et en fait, là où j'aimerais revenir... Il est vrai que certaines propositions, certains projets n'ont pas été votés au Parlement européen. Mais ce que je veux juste clarifier pour ceux qui nous écoutent, le PPS est un grand groupe, c'est le plus grand groupe politique au Parlement européen dans lequel nous avons un député. Ça, je voulais d'abord le préciser. Donc on ne peut pas imputer tout le vote du PPE aux députés belges qui représentent les engagés. Deuxièmement, là où je voulais venir, c'est qu'il y a d'autres choses que nous avons votées. Quand la question s'est posée d'importer des produits de l'Australie jusqu'ici en Europe, nous avons voté contre, là où d'autres ont voté pour, alors que pour nous ça nous semblait invraisemblable. Et troisième chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce que c'est fondamental aussi dans le mouvement que j'incarne aujourd'hui, les engagés, c'est que les engagés ont été le premier mouvement à assumer le fait qu'il fallait changer. Et cette refondation a eu lieu au sein même de notre parti. elle a eu lieu au sein de notre parti, au sein même de nos idées, pour pouvoir changer de modèle.
Voilà, Place Publique revient dans une poignée de secondes.
19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
Destination élection ce soir dans Place Publique. Quels sont les enjeux pour la Belgique lors des élections européennes? Parlons des énergies. Le projet européen souhaite passer à 42% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. C'est comme ça qu'on dit. On parle des énergies solaires, éoliennes et hydrauliques. Léa Charlet, vous êtes troisième sur la liste écolo à l'Europe. Vous approuvez cet objectif?
Nous, on l'approuve, mais on aimerait aller plus loin. Nous, on est persuadés qu'il est, en gros, quand on regarde à toutes les solutions à notre disposition, les énergies renouvelables sont à notre disposition. Elles permettent de couvrir notre demande et elles coûtent moins cher. C'est une réalité actuellement dans le monde. Si, si. 87% des nouvelles installations sont des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont fait x2 dans ces dernières 25 années. Donc en fait, si on laisse le marché décider tout seul, en fait, il va choisir des questions de renouvelables.
Et donc, elles suffiront pour approvisionner population et les industries.
Alors, il y a plusieurs choses. On doit investir évidemment dans un mix énergétique qui est, pour nous en tout cas, on est entièrement renouvelable. On est persuadé que c'est possible. Et ce n'est pas que les écolos qui le disent, c'est d'autres associations et d'autres bureaux d'études qui ne sont pas seulement écologiques. Mais ça va de pair avec d'autres choses. Ça va de pair avec des économies d'énergie. Ça va sur les questions d'efficacité énergétique. Nous devons réduire notre consommation. On doit isoler les bâtiments avec des répercussions qui sont positives sur les factures des ménages. Parce qu'encore une fois, la question, c'est de faire que les gens aillent mieux. Et en fait, encore une fois, les questions de pouvoir d'achat, c'est aussi ça. On doit aussi ça doit aussi être une répercussion positive pour les ménages et pour les entreprises. Et on doit sortir en fait des énergies fossiles et donc notamment arrêter de les subsidier. Donc voilà, nous on est persuadé encore une fois que investir dans ces énergies renouvelables, ça va nous permettre de préserver une planète habitable et de réduire notre dépendance énergétique à des pays tiers en fait, comme la Russie ou d'autres régimes autoritaires, parce qu'actuellement notre uranium, eh bien, il vient de pays autoritaires et ce n'est pas possible.
Fabrice Van Dorp, vous êtes tête de liste Défi à l'Europe. Vous soutiendrez cet objectif 42% d'énergie renouvelable?
Alors, je pense qu'il faut être très sérieux. Je crois qu'il faut pérenniser le nucléaire. On a des centrales qui fonctionnent bien. Si on arrête tout du jour au lendemain, je pense qu'on ne saura plus recharger nos GSM, on ne saura plus recharger nos voitures électriques. Ça va être une catastrophe. Il faut aussi parler du secteur de la recherche. Il faut rechercher, bien sûr, des alternatives. La géothermie... Il y a aussi les petits SMR, hein, donc c'est des petits modules. Il y a la fission et la fusion, hein, il y a ces deux choses différentes. Ce petit SMR peut produire de l'hydrogène, on peut arrêter ce réacteur et il continue à produire de l'hydrogène. Donc on peut le mettre en stand-by, contrairement aux réacteurs actuels nucléaires. Effet zéro, effet de serre en 2050, si on ne fait pas un effort, on ne va pas remettre des usines gaz ou charbon en route. Autrement, alors on se tire une balle dans le pied, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut être tout à fait sérieux.
Donc il faut produire de l'hydrogène, ça ne pollue pas?
Écoutez, si, ça pollue également. Mais je pense que le nucléaire, c'est quand même la solution pour l'instant qui pollue le moins. Si on fait le calcul, je sais que ma collègue en face de moi va bondir sur moi dans 2 minutes. Non, je rigole.
Tout va
mais
bien.
Il faut être très sérieux. On ne peut pas couper du jour au lendemain la prise et dire c'est terminé. Bien sûr, l'éolien offshore, il faut y participer. Il y a la géothermie qui est importante également. Tout ce qui est hydroélectrique, donc on a pas mal de barrages, on a des cours d'eau. Il faut rechercher d'autres alternatives, mais pas se limiter à dire on va juste faire de l'éolien et point final.
David Mouongo, les engager rapidement sur la problématique des énergies.
Qui est très important, de l'éducation, parce que ça, je voulais en venir. Je pense que ça commence déjà par l'éducation. Les fenêtres ouvertes en plein hiver, en chauffant à 35 degrés, ce n'est pas possible. Jeter tous ces déchets, donc tout ce qui est bien sûr circulaire est important. À signaler que nous sommes un des pays dans le top 3 en Europe au niveau du tri, donc c'est important de le signaler. On a quand même une bonne éducation.
Voilà qui est dit. Rapidement, 30 secondes, David Mouongo.
35 secondes. La question en fait à se poser, c'est de savoir est-ce qu'on va arriver à couvrir nos besoins en matière énergétique jusqu'à 2050? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que nous sommes pour le renouvelable? Bien sûr que oui. Est-ce que nous sommes pour réduire la pollution et réduire le nucléaire? Bien sûr que oui. Mais là où écolo regarde en fait cette question avec beaucoup de dogmatisme, parce que bon, c'est quand même le nom du parti, c'est écolo, et donc ils sont obligés, je pense, de pousser leur projet jusqu'à ne plus avoir forcément les choses en face des yeux. Nous, nous voulons être pragmatiques. Et ce que nous proposons, c'est un mix énergétique en quatre quarts. Très simplement. 25% d'économie d'énergie sur base des isolations et sur base de l'aménagement des nouvelles constructions. 25% de renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, etc., etc. 25% de nucléaire, même si ça dérange. La réalité est que le nucléaire, nous avons des centrales en Belgique qu'on a prolongées de 10 ans, qu'on aurait pu prolonger de 20 ans, selon certaines études. Certains bureaux d'études, en fait, ont approuvé cette mesure. Ma collègue ici disait que les bureaux d'études approuvent que le nucléaire coûterait plus cher que le renouvelable.
Le nouveau nucléaire, j'ai dit.
Pardon ?
Le nouveau nucléaire.
Le nouveau nucléaire coûterait plus cher que l'éolien. Mais le même bureau d'études, et je sais à quel bureau d'études Écolo fait référence, un an avant disait l'inverse. Et curieusement, après l'intervention d'Écolo, a dit le contraire. Je me pose juste simplement la question de ce qui s'est passé en termes d'un an. Je parle de mars 2022 à mars 2023. Et enfin, dernier quart, 25% de combustible, chaleur décarbonée.
Des graves accusations, là, Léa Charlet.
Oui, en fait, si je peux me permettre, ça me fatigue un petit peu qu'on parle de nous comme... de soutenir, en gros, qu'Écolo n'est pas sérieux, n'est pas pragmatique. Je trouve que c'est un petit peu facile. Parce que là, moi, ce que j'entends, il y a aussi des choses qui ne sont pas sérieuses. Par exemple, le SMR, pour l'instant, n'existe que sur PowerPoint. Il n'existe pas actuellement. Le seul projet SMR qui existait a été abandonné en 2023, pour des très bonnes raisons. On parlait aussi également des EPR, du nucléaire, de la prolongation. Tous les nouveaux qui ont été créés, il y en a trois actuellement qui sont en nouvelle création, ils coûtent plus cher, entre 2 à 3 fois plus cher, suivant les choses, Flamanville, voilà. Ça, on a explosé les factures et ça prend beaucoup trop de temps. Je n'ai pas terminé, j'aimerais bien finir ma phrase. Ensuite, je veux dire, nous, on sait, on peut tout à fait se passer du nucléaire et décarboner la Belgique d'ici 2050. Et là, vos réacteurs dont vous parlez, les petits réacteurs, ils ne sont pas disponibles avant 2045. C'est trop tard pour sauver le climat. Nos objectifs, je vous rappelle, c'est moins 90% en 2040 et neutralité en 2050. Donc nous n'avons pas le choix. C'est pour ça qu'on dit actuellement, les énergies renouvelables, elles existent, elles fonctionnent. Nous avons eu, il y a un doublage de l'éolien offshore qui a été promu par Groen et par la ministre de l'énergie. Et en fait, on va pouvoir avancer. On n'a jamais dit qu'il fallait débrancher le nucléaire du jour au lendemain.
Voilà.
Ça, vous décidez de le faire, mais ça, ce n'est pas ce qu'on vous dit. On dit qu'il faut avancer et continuer d'aller chercher en fait un mix énergétique, et on va avancer vers le 100% renouvelable et nous allons y arriver.
Voilà qui est dit. Place Publique revient dans un petit instant, juste après la dernière pause musicale de cette émission avec Hamza. Ce n'est qu'une question de vibes, Hamza.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
Dernière partie de Place Publique, destination élection. Quels sont les enjeux pour la Belgique lors des élections européennes du 9 juin? Quelle est votre proposition, Fabrice Van Dorp, tête de liste Défi à l'Europe, pour une Europe où tout le monde se sent en sécurité?
Écoutez, on le voit pour l'instant dans toutes les villes. On va déjà parler de la Belgique avant de parler de l'Europe. On fait la chasse, enfin chez nous on veut faire la chasse aux narcotrafiquants. Le port d'Anvers, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a le juge Claes qui est chez nous. Et il est temps d'agir, parce qu'on est devenu un pays où tous les deux jours ou trois jours, il y a une fusillade à Bruxelles, à Namur, à Charleroi, à Liège. Nous ne sommes plus en sécurité. Il faut revaloriser certainement le travail des policiers, ça c'est une première chose. Remettre des véritables bureaux de police dans les quartiers, remettre des gens dans les rues et revoir un petit peu toute cette sécurité, parce que justement tout le monde se sent en insécurité. On a laissé aller beaucoup trop loin, et là c'est dommage que certaines personnes du gouvernement ne soient pas là aujourd'hui, hein. On voit que le MR a désinvesti dans la sécurité depuis 20 ans, et c'est dommage, parce que la sécurité, je pense que c'est la première liberté qu'on peut avoir, en tout cas, c'est la sécurité. On ne peut pas dire à ses enfants, demain tu vas aller à l'école, mais peut-être que tu ne reviendras pas, parce que sur la rue, ils sont en train de se canarder, parce qu'il y a des territoires maintenant qui sont envahis. On voit C'est gangréné par la mafia marseillaise et bien d'autres. Donc on ne peut plus laisser faire ça. Et chez des filles, on veut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière et commencer par nettoyer tout ça. Et surtout, surtout, aller chercher l'argent justement de ces gens-là, couper la tête aux grandes entreprises qui sont ici, des grandes entreprises mafieuses. Et là, on peut réinjecter cet argent dans notre système.
David Mungo, les engagés ?
Je pense qu'il faut faire de la sécurité une question sincèrement nationale. Je pense qu'à Bruxelles, on est à plus de 21 fusillades avec homicide et en causé homicide depuis le début de l'année 2024. Donc c'est alarmant. C'est alarmant. Je pense qu'il y a quelques jours encore, c'était du côté de Stalingrad. C'est alarmant. Et il faut être intransigeant sur le sujet. Oui, il faut investir dans la sécurité, investir dans la police. Il faut investir, bien évidemment, pour combattre la drogue et tout ce business, en fait, de narcotrafic qui sévit en Wallonie, à Bruxelles, mais également en Flandre aussi. Donc oui, il faut investir. Mais au-delà aussi d'investir, je pense qu'il faut aussi investir dans la prévention et dans la réhabilitation de certains quartiers connus pour être chauds ici à Bruxelles ou en Wallonie, en fait. Parce que on va renforcer la sécurité, on va mettre plus de présence policière, on va investir dans la justice. C'est très bien et il faut le faire. Je répète, c'est très bien et il faut le faire. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on ait un pôle d'action qui s'occupe de ces personnes-là, en fait. Des personnes qui vivent en cité, des personnes qui vivent à la frontière où se passent des narcotrafics, non seulement pour amener un climat plus paisible, mais aussi pour amener, en fait, les consciences à une citoyenneté beaucoup plus responsable et beaucoup plus tournée vers le bien commun.
Léa Charlet, vous êtes troisième sur la liste écolo à l'Europe. On parle de vivre ensemble, de sécurité. Écolo souhaite une Europe féministe et LGBTQIA+ friendly. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, c'est simple, en fait, les questions de... En fait, on parlait de sécurité juste avant. En fait, la sécurité, c'est pas seulement... la question des narcotrafiquants, encore une fois, c'est très important. Il faut absolument que l'Europe se positionne là-dessus et puisse, encore une fois, couper la tête à la criminalité organisée. Voilà. Mais la sécurité, elle est aussi pour les femmes. Elle est aussi pour les personnes LGBT. Elle est aussi pour les personnes racisées dans la rue. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est pas mal de choses. Sur les questions féministes, bah, encore une fois, c'est de continuer, en fait, de protéger les femmes à tous les niveaux, notamment sur les violences, moi, ce que j'appelle les violences machistes, parce qu'encore une fois, on parle de violences basées sur le genre, mais malheureusement, ça arrive aussi aux enfants, ça arrive aussi aux personnes gays. Et donc, et par contre, ça vient d'une source. C'est malheureusement, la plupart des auteurs sont des hommes. Et donc, sur les questions LGBT, de manière très concrète, nous, on voit qu'il faut absolument permettre la reconnaissance de toutes les unions dans l'Union européenne, quel que soit le pays de résidence, et pour tous les enfants également. Ça, c'est un vrai problème. Vous l'avez vu, par exemple, en Italie, Giorgia Meloni, qui est arrivée au pouvoir par quelqu'un de l'extrême droite, a retiré la maternité de femmes lesbiennes, en fait, et donc qui se trouvaient dépossédées de leur enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de la violence que c'est. Également, d'interdire, en fait, les stérilisations forcées des personnes trans, parce que ça existe encore en Europe, les mutilations génitales des personnes intersexes, mais également les thérapies de conversion. Et là, par exemple, je vous inviterai, s'il vous plaît, à signer, il y a une initiative citoyenne européenne qui vient d'être lancée pour tout ça. Et encore une fois, protéger les personnes migrantes, protéger les personnes trans, et continuer, et je vais insister, c'est ma dernière chose, et c'est la lutte contre l'extrême droite qui tue là-dessus, financer directement la société civile, pour justement protéger les minorités dans les pays qui sont dirigés par des régimes autoritaires et d'extrême droite. Et ça, je pense que ça peut être la solution à énormément de choses et de l'Europe protectrice.
Voilà qui est dit. C'était Place Publique, une émission à retrouver évidemment sur arabelle.fm et sur les plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous mercredi prochain, 19h. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.